Salut à toi, moi c'est Sarah, bienvenue sur le premier podcast d'Éduque-moi pas pour parler des 1312 nuances de pédagogie. Pour la journée internationale des luttes pour les droits des femmes, on a décidé de mettre en valeur, dans ce premier épisode, quelques pédagogues qui ont œuvré pour l'égalité des femmes, la coéducation des sexes et la mixité des genres. Dans un second épisode, nous accueillerons Danae Castro, avec qui nous essaierons de comprendre le travail fait dans les structures d'éducation populaire et les travaux qu'il reste à mener autour de ces questions. Mais avant cela, nous te proposons de découvrir ensemble une autre histoire de l'éducation avec Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour Geoffrey. Pour comprendre comment l'éducation était un instrument privilégié dans la lutte pour les droits des femmes. Il nous semblait essentiel de mettre en avant ces femmes pédagogues qui ont laissé au cours de l'histoire des empreintes très fortes sur les idées et outils pédagogiques. En ayant été parfois invisibilisées à la suite de leurs combats, et pourtant, même si certaines choses nous semblent évidentes aujourd'hui, il est indispensable de revenir sur ce qui fait notre école et nos luttes actuelles, locales et internationales. Nous allons donc traverser le monde et le temps, de la Russie aux États-Unis, en passant par la France, l'Italie ou encore le Pakistan, du 19e siècle à nos jours, à la rencontre d'une dizaine de femmes qui ont agi en éducation et pour les droits des femmes. Et c'est bien sûr une liste non exhaustive. Évidemment, ce n'est pas ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Tournons-nous plutôt vers certaines qui ont, en revanche, largement mis leur pierre à cet édifice. Geoffrey, à toi, parle-nous de ces femmes qui ont marqué l'histoire.
Tout d'abord, partons vers le 19e siècle, période de la révolution industrielle où prend forme le capitalisme. Française, née en 1805 et décédée en 1865, Élisa Lemonnier est au cœur de systèmes économiques et politiques en plein chamboulement. Face aux hommes qui souhaitent garder les pouvoirs, Élisa Lemonnier milite pour que les femmes aient au moins les mêmes libertés et qu'elles puissent profiter de formations professionnelles de haut niveau afin de ne pas rester dans les rôles qui leur sont assignés, ne pas être des mères et des épouses sous-payées. Élisa Lemonnier fonde plusieurs associations et écoles où les filles peuvent bénéficier d'une éducation physique, intellectuelle et manuelle. En effet, elle ne doute pas du fait que les capacités intellectuelles des filles et des garçons soient similaires. C'est le début de la théorie de l'égalité radicale des intelligences. Élisa Lemonnier prône que l'enseignement, les savoirs, la qualification ainsi que le travail sont les plus grandes sources d'émancipation. Peu avant sa mort, Élisa Lemonnier nommera directrice des écoles Lemonnier Julie Toussaint, qui elle aussi aura une grande influence sur l'éducation des filles et le féminisme français.
Cette vision de l'éducation sera le fer de lance des luttes contre la division sociale du travail, sexiste, capitaliste ou encore raciste. Cela irriguera alors toutes les pensées pédagogiques révolutionnaires. C'est dans cet esprit que Paul Robin, dont nous avons déjà parlé sur notre page Insta d'ailleurs, devient directeur de l'orphelinat de Sans-Puy dans l'Oise en 1880, afin d'être l'un des premiers à expérimenter et penser ce qu'on appelle la coéducation des sexes. Mélanger filles et garçons dans des mêmes salles et pour la même éducation. Une évidence aujourd'hui, pourtant, la discrimination des sexes n'a été abolie en France qu'en 1969. Élisa Lemonnier et Paul Robin nous posent déjà une question aussi simple que complexe. Comment faire pour que, grâce à l'éducation, les filles et les garçons soient pareils ou du moins considérés sur le même pied d'égalité, leur permettant d'avoir enfin des chemins similaires.
On va rester au 19e siècle. Une autre femme française œuvre grandement pour l'éducation, particulièrement pour la petite enfance des années 1860, Pauline Kergomard. Pauline Kergomard est une ancienne communarde et est la femme qui pose les bases de l'école maternelle contemporaine. C'est encore aujourd'hui une institution modèle dans le monde, à l'inverse de l'école primaire et secondaire française. L'école maternelle, pour Pauline Kergomard, c'est la possibilité de réfléchir autrement à la place que l'on doit donner à l'éducation pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Elle milite pour les jeux libres et collectifs, pour retarder l'apprentissage des savoirs fondamentaux et pour une hygiène irréprochable. Bien manger, bien dormir, être plein et pleine de force et d'adresse, condition de l'apprentissage et de l'émancipation. Car oui, le courant hygiéniste est révolutionnaire. Pauline Kergomard est ensuite nommée en 1881 inspectrice générale des maternelles, où pendant presque 40 ans, a fait le tour de France afin de former au mieux les instituteurs et institutrices. Elle est pionnière sur cette question et influence grandement Mariette Montessori.
Maria Montessori, ce nom vous dit certainement quelque chose.
Oui, Maria Montessori est certainement la pédagogue la plus célèbre au monde. L'une des premières femmes médecins italiennes en 1896, elle est très vite aiguillée vers la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Elle réfléchit à l'apprentissage des enfants atteints de déficience mentale en se basant aussi sur les travaux des sœurs Agassiz. Ce qui fit le succès de Montessori, c'est l'étendue extraordinaire des objets pédagogiques qu'elle a utilisés avec les enfants afin de mêler les questions sensorielles et l'apprentissage.
Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui. Grâce à sa notoriété, il te sera facile de te procurer des informations sur elle.
Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasore.
Sortons de l'Italie pour aller maintenant en Russie afin de parler d'une autre femme pédagogue, Nadejda Krupskaya.
Née en 1869 à Saint-Pétersbourg, elle est sûrement la personne à son époque la plus renseignée sur les questions d'éducation. Elle a suivi pendant plusieurs années la pédagogie à l'université. On connaît peu son nom car parfois de nombreuses femmes sont victimes de l'effet Matilda. Les hommes de leur entourage effacent parfois leur mémoire. En effet, Nadejda Krupskaya est l'épouse de Lénine. Nadejda Krupskaya est avec lui dans les nombreux voyages ou exils. Elle a alors la possibilité de découvrir les idées et œuvres pédagogiques à travers l'Europe. Elle est une intellectuelle marxiste très reconnue et spécialisée sur les questions d'éducation. À la révolution bolchevique, Nadejda Krupskaya est une des architectes de la mise en place du système d'éducation soviétique. Elle y défend politiquement toutes les avancées du féminisme, le droit à l'avortement, de vote, etc. Et pédagogiquement, l'alphabétisation des masses, la mise en place d'espaces pour l'éducation populaire, l'autogestion au sein des établissements scolaires et le croisement didactique des sciences naturelles, sociales et techniques. Elle l'appelle l'éducation polytechnique.
Et maintenant, retournons en France, où une autre femme a subi, peut-être dans une moindre mesure, l'effet Matilda.
Oui, en effet, il s'agit d'Élise Freinet, institutrice communiste née en 1898 et décédée en 1983. Femme de Célestin Freinet, Élise permet à son époux de construire une pédagogie connue internationalement.
C'est la pédagogie Freinet. Les travaux en groupe, le tâtonnement expérimental, apprendre en faisant des essais, aller apprendre dans la forêt ou dans les villes, les activités artistiques, utiliser l'imprimerie.
Le nombre d'outils mis en place par le couple Freinet est assez gigantesque. Élise Freinet, à la mort de Célestin, publie la fin de l'œuvre des Freinet, puis forme nombre d'instituteurs et institutrices par-delà les frontières.
Maintenant, voyageons et traversons l'Atlantique. Parlons d'une femme connue, très connue, dont la notoriété en France est toujours croissante. Il s'agit de Bell Hooks.
Oui, Bell Hooks, intellectuelle africaine-américaine, pionnière de l'analyse, de l'articulation, des discriminations de sexe, de race et de classe, que Kimberly Crenshaw nommera intersectionnalité. Pour faire court, selon le concept, il est différent d'être un homme noir ou une femme noire, d'être une femme blanche ou une femme noire, d'être une femme bourgeoise ou une femme pauvre. Il existe en effet non pas une accumulation des stigmates et des violences, mais bien des rapports de domination qui leur sont propres. Bell Hooks, née en 1952, grandit dans une famille noire pauvre dans le Kentucky, à ce moment un état encore ségrégationniste.
Dans son essai pédagogique « Apprendre à transgresser », publié en 1994, elle critique parfaitement la place de l'école dans le système patriarcal, raciste et capitaliste des États-Unis d'Amérique. Elle y retrace d'abord son histoire personnelle et sensible. Elle raconte comment, jeune élève brillante, pour éviter de reproduire le schéma typique de la femme noire destinée à être mariée, ouvrière ou domestique, ses institutrices la poussent à faire des longues études. Bell Hooks est alors obligée de se confronter à la fin de la ségrégation, à l'éducation scolaire et universitaire des jeunes garçons blancs issus des classes bourgeoises. Elle termine ses études comme docteur et enseignante en littérature en 1983.
Dans son ouvrage, elle retrace ensuite son expérience d'enseignante et décrit ses théories pédagogiques. Là où son œuvre pédagogique est révolutionnaire, c'est que pour Bell Hooks, le savoir doit être une conscientisation politique, où l'on apprend lorsque les sujets analysent et transforment leur façon de vivre et leurs conditions d'existence. Belloux met alors au cœur de sa classe la passion, comme un endroit autant de plaisir, d'amour que de colère, de conflit ou de tension. Elle oblige ses étudiants rituellement à prendre la parole et à débattre avec les autres. Ses étudiants doivent constamment se demander ce qu'il s'est passé dans leur vie, les semaines, les années passées. L'expérience sensible est alors le meilleur terreau des apprentissages.
En bref, en plus d'être une intellectuelle de grande renommée, Bell Hooks, en tant que pédagogue, a permis de développer tout un pan en pédagogie, celui de considérer le sujet comme un être politique et de servir des thèses en sciences sociales pour apprendre et penser la pédagogie.
Et oui, se servir des sciences sociales. Nous allons justement parler succinctement des trois chercheuses françaises contemporaines en sciences de l'éducation. Nicole Mosconi, décédée en 2021, de Marie Durbella et Alexia Marvon. Nicole Mosconi a été à l'initiative du développement du concept particulièrement pertinent de rapport au savoir. Marie Durbella est reconnue internationalement pour ses travaux sur les inégalités sociales.
Pourquoi les enfants issus de milieux privilégiés réussissent-ils mieux à l'école ? Pourquoi les filles sont aussi minoritaires dans les filières scientifiques ? Qu'est-ce qui prédestine les filles et les garçons à prendre des chemins différents ? Elles expliquent ainsi comment, par exemple, le système scolaire français est extrêmement inégalitaire et genré, et comment les inégalités atteignent les élèves jusque dans leur expérience scolaire et leur sensibilité. Alexia Morvan est une chercheuse qui a travaillé sur les questions d'éducation populaire afin d'en faire un historique et une redéfinition.
Elle propose alors des outils afin que les individus, notamment les femmes, puissent retrouver une capacité d'apprentissage collectif, de lutte contre les formes de domination pour transformer la société loin de la démocratie représentative et le capitalisme.
Pour terminer cette introduction, partons vers l'Asie car il me tient à cœur de vous parler de Malala Yousafzai, jeune pakistanaise née en 1997 qui, à 11 ans, a tenu un blog pour dénoncer les talibans pakistanais qui voulaient interdire l'école aux filles. Attention, violence, ils ont tenté de l'assassiner à l'arme à feu dans un bus scolaire. Elle reçoit alors une balle dans la tête, mais s'en sortira miraculeusement, sans aucune séquelle. Depuis, elle s'engage internationalement pour l'éducation des filles et a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Profitons de l'esprit de Malala et d'un regard international pour rappeler que dans le monde, le nombre estimé de filles enfants soldats pour beaucoup esclaves sexuels est de plusieurs centaines de milliers, que 2 personnes analphabètes sur 3 sont des femmes, ou encore que les mariages forcés avant 18 ans entraînent largement la fin des études pour les jeunes filles.
Les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde de femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou.
Elisa Lemonnier, Julie Toussaint, Pauline Kergomar, les sœurs Agassi, Maria Montessori, Nadejda Krupskaya, Élise Freinet, Bell Hooks, Malala Yousafzai, Marie Durbella, Nicole Mosconi, Alexia Morvan et tant d'autres sont des femmes qui, par leurs actions et leurs pensées pédagogiques, peuvent être des modèles et nous inspirer dans les combats à mener en éducation et sur le reste de la société. Voilà, nous espérons que cet épisode t'a plu, que tu as découvert plein de nouvelles choses et que tu nous retrouveras dans le prochain épisode où Danae Castro sera avec nous. N'hésite surtout pas à faire un tour sur notre page Insta, à nous suivre sur les réseaux et n'hésite pas à nous faire tes commentaires sur ce podcast. À bientôt.